Chers amis, chers camarades, travailleuses, travailleurs. Donc la campagne présidentielle est lancée et je voudrais discuter des objectifs qui sont les nôtres et du combat que nous avons à mener. Avec la question du terrorisme, avec la question de Calais et des migrants, et maintenant avec la police qui se met elle-même à manifester, la campagne a pris un cours démagogique, sécuritaire et anti-immigré et xénophobe. Et cela sans même que Le Pen n'entre réellement dans la danse. Mais derrière cette démagogie, destinée à faire diversion, se cache une politique férocement anti-ouvrière. On le voit avec la primaire de droite et le défilé de leurs candidats. Vous avez tous entendu, je suppose, Sarkozy, Fillon, Le Maire, Kosciusko-Morizet. Ils rivalisent de bassesse envers le patronat. L'un promet 21 milliards de cadeaux au patronat, l'autre 34, 40 milliards pour le troisième. Et ils sont bien sûr tous d'accord pour faire reculer encore l'âge de la retraite, pour mettre fin aux 35 heures, pour supprimer des centaines de milliers de postes de fonctionnaires, pour diminuer les indemnités chômage. Et j'oublie les idées originales du genre privatiser Pôle emploi, supprimer le statut de fonctionnaire pour les enseignants ou les employés des collectivités locales, ou encore imposer des jobs à 5 euros de l'heure. Enfin bon, les candidats de droite rivalisent d'idées pour mener la lutte de classe. Mais si la droite peut présenter des programmes aussi anti-ouvriers, c'est que les socialistes au pouvoir ont préparé le terrain. Avec 40 milliards de cadeaux au patronat, avec le démantèlement du code du travail du dimanche, et la généralisation des accords de compétitivité. En fait, la droite ne fait que reprendre le travail là où le laissent Hollande, Valls et Macron. Il se passe le relais. En 2012, Hollande a pris le relais de Sarkozy en prolongeant sa politique anti-ouvrière. Eh bien, la droite se prépare aujourd'hui à reprendre le bâton et à pousser le bouchon encore un peu plus loin. Et Le Pen aspire exactement à la même chose. Hollande, Sarkozy, Juppé, Le Pen se préparent tous à gouverner pour le compte de la bourgeoisie. Ils raisonnent tous du point de vue des intérêts patronaux et ils défendent tous une politique pour aider le patronat, pour baisser, comme ils disent, le coût du travail, pour faciliter la compétitivité et les profits patronaux. Le Front National n'a pas eu l'occasion de le démontrer en accédant au pouvoir. Alors certains autour de nous se disent qu'il faut peut-être l'essayer. Mais Le Pen, c'est Hollande et Sarkozy en pire. C'est du faux neuf. Bien sûr, le Front National n'a pas le passif de la gauche et de la droite au gouvernement. Mais il a un passé politique. Le Front National, c'est la France de Vichy et de l'Algérie française avec une grosse couche de maquillage. Le Pen père fut élu député en 1956. À l'époque, il était parachutiste torsionnaire en Algérie. Aujourd'hui, le père Le Pen a été mis de côté par sa fille, mais au cœur du Front National, il y a toujours les mêmes idées. L'anticommunisme, l'hostilité aux syndicats, aux grèves et aux travailleurs qui se battent. Et les dirigeants actuels du Front National le montrent d'ailleurs quand ils sont à la tête des municipalités, enfermant les centres sociaux et enfermant, comme dans la commune de Hayange que vous connaissez, le Secours Populaire. Pour dénoncer les migrants, les pauvres parmi les pauvres, Marine Le Pen n'a pas de mots assez durs. Mais quand il y a une lutte contre les vrais privilégiés, contre les riches dont elle fait partie, eh bien elle est de l'autre côté de la barricade, du côté de l'ordre et du gouvernement. Et on l'a vu lors des grèves et des manifestations contre la loi travail. Et souvenez-vous aussi comment Marion Maréchal Le Pen avait traité les salariés d'Air France lorsqu'il y a eu ce coup de colère et cette histoire de la chemise déchirée. Elle avait alors parlé de voyous qu'il fallait mater avec l'armée. Alors, voter pour l'un ou l'autre de ces candidats, quand on appartient au monde ouvrier, c'est voter contre son camp, c'est voter contre ses intérêts, c'est tendre le bâton pour se faire battre. Dans cette élection, il faut affirmer nos droits de travailleurs, notre conscience d'appartenir à un camp qui est opposé à celui de la bourgeoisie et à tous ses serviteurs politiques. S'exprimer, se rassembler le plus nombreux possible pour faire entendre le camp des travailleurs au premier tour, c'est ce qu'il y a de plus utile à faire dans ces élections. Parce que l'enjeu n'est pas de savoir qui sortira vainqueur du second tour. On le sait d'avance. Les jeux sont faits. Celui qui sortira des urnes en 2017 sera un ennemi des travailleurs. Choisir parmi Sarkozy, Juppé, Hollande, Le Pen, c'est choisir parmi ses ennemis, celui qui piétinera nos intérêts à partir de mai 2017. C'est accepter par avance d'être trompé et sacrifié. Alors il ne faut pas marcher dans cette duperie électorale. Mais puisqu'on nous donne la parole au premier tour, eh bien il faut la prendre pour s'exprimer, pour mettre en avant nos préoccupations de travailleurs, d'ouvriers, de chômeurs, de retraités, pour défendre nos intérêts matériels et politiques. Il y a 6 millions de chômeurs dans ce pays. Et s'il y a des salariés qui vont au boulot la peur au ventre, ce n'est pas à cause du danger terroriste. C'est de peur d'être licenciés. C'est parce que les cadences et la charge de travail ne cessent d'augmenter. C'est parce que la pression des cadres et de la hiérarchie est de plus en plus insupportable. Alors, affirmer son droit à un emploi, à un salaire, à une retraite, à un logement digne est une nécessité vitale pour chacun d'entre nous. Les centaines de milliers de salariés, du privé et du public, qui se sont battus contre l'augmentation du temps de travail, contre la précarité, contre les mensonges patronaux sur le prétendu dialogue social dans l'entreprise lors de la mobilisation contre la loi El Khomri, et tous ceux qui en ont été solidaires et qui se sont donc reconnus dans ces revendications, doivent continuer de s'exprimer sur le terrain politique dans les élections. C'est pourquoi dans cette élection, nous appelons les travailleurs à dénoncer la politique patronale, à affirmer la nécessité de prendre sur les profits pour garantir les emplois, pour répartir le travail entre tous de façon à combattre le chômage et pour augmenter les salaires. Crise ou pas crise, la classe capitaliste continue d'accumuler les profits et la grande bourgeoisie à s'enrichir avec la collaboration active de tous les gouvernements. Alors, nous devons affirmer que les travailleurs ont le droit et le devoir de défendre leur peau. Nous appelons les travailleurs à affirmer que le monde du travail n'a pas à être sacrifié sur l'autel du grand capital. À les entendre tous, de Le Pen jusqu'à Hollande, les seuls problèmes du pays se sont calés. Les migrants, la sécurité et la montée du communautarisme, qu'ils contribuent d'ailleurs tous à créer eux-mêmes, par leurs mille et une provocations quotidiennes. Leur campagne n'a qu'un seul but, celui de faire des voix en s'appuyant sur les peurs et en flattant les préjugés racistes. C'est de la diversion. Et c'est de la démagogie. Car ils ne sont pas plus capables de maîtriser l'arrivée de migrants que d'éradiquer le terrorisme. Ni Hollande, ni Sarkozy et ni Le Pen ne freineront l'arrivée des migrants. Ils peuvent construire des murs, des barbelés, creuser des fossés, mettre des miradors. Et c'est ce qui se fait d'ailleurs déjà dans de nombreux pays. Mais ils n'empêcheront pas la vague migratoire. Parce qu'on a tous en tête les images de la ville d'Alep et de ces villes bombardées en Syrie et en Irak. Et on sait que tant que les hommes auront des jambes et l'énergie pour marcher, eh bien ils essaieront de sauver leur peau. Et nous ferions tous exactement la même chose dans la même situation. L'extrême droite, la droite, multiplie les pétitions contre l'accueil des réfugiés, tandis que le gouvernement se targue, lui, de défendre une politique un peu plus humaine. Mais regardez comment même les socialistes présentent les migrants. Non pas comme des victimes, mais comme des indésirables. Non pas comme des femmes et des hommes qui sont comme nous, mais comme des fardeaux. Et qu'un élan de solidarité s'exprime, et la propagande se met en marche pour marteler qu'il ne faut pas créer d'appel d'air. Tout est fait pour que nous taisions nos sentiments de fraternité, et tout est fait pour nous convaincre que les migrants représentent une menace pour nous et nos enfants. C'est de la démagogie, aussi stupide qu'infecte. Le résultat de tout ça, c'est que ces dirigeants rendent la vie de ces femmes et de ces hommes plus insupportable encore, et puis ils flattent les préjugés les plus abjects dans la population. Et ils poussent donc les plus racistes à passer aux actes ce sont des pyromanes. Et les victimes de cette démagogie ne seront pas seulement les migrants d'hier ou d'aujourd'hui. Nous en paierons tous les conséquences. Car les politiciens qui justifient le rejet des étrangers ne spéculent pas seulement sur des fantasmes. Ils invoquent aussi le chômage élevé, la pénurie de logements, la saturation de nos systèmes de soins. C'est-à-dire qu'ils matraquent l'idée qu'il n'y a déjà pas assez pour tous. Cela sert à justifier leur politique anti-ouvrière. Cela sert à nous enfoncer dans le crâne qu'il est vain de revendiquer et qu'il faut tous se serrer la ceinture. Et puis c'est une façon évidemment de nous mettre en concurrence permanente, de nous opposer les uns aux autres. Ceux qui ont un travail à ceux qui sont au chômage, ceux qui sont en intérim ou en CDD à ceux qui sont en CDI. C'est un instrument de division. Avec cette campagne sur l'identité nationale, sur l'immigration, les Sarkozy et les Hollande nous enfument pour ne pas avoir de compte à rendre sur la misère qu'ils ont contribué à fabriquer et pour cacher les milliards accumulés dans les mains d'une minorité. Ils ne cessent qu'on ne peut pas accueillir, ils ne cessent de répéter qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Mais ce sont eux qui fabriquent la misère, en pillant les richesses des pays pauvres partout sur la planète et en s'acoquinant avec les pires dictatures. Ils la fabriquent en Irak, en Syrie, par leurs manœuvres et leurs bombes, et ils la fabriquent ici, par le chômage et la précarité. Ils la fabriquent pour qu'une minorité capitaliste s'enrichisse, toujours et encore. Alors, dans cette élection, montrons qu'il y a des travailleurs qui ne se trompent pas d'ennemis. Affirmons que les travailleurs n'ont pas à se battre entre eux pour se partager la misère, mais qu'ils ont à imposer le contrôle sur les richesses qu'ils produisent pour s'opposer à ce qu'elles soient confisquées par une minorité. Affirmons qu'il y a bien deux mondes dans cette société, celui des riches et des pauvres, celui des exploiteurs et de l'autre côté, le monde des exploités, qui regroupe des femmes et des hommes de toutes origines et de toutes confessions. Affirmons pour tous les exploités de cette terre la liberté de circulation et d'installation. Accueillons les migrants à bras ouverts parce qu'ils ont leur place dans le combat qui est le nôtre, changer ce monde de plus en plus inhumain. À côté de toute cette campagne contre les migrants, il y a encore tous les débats sur le terrorisme. Les débats sans fin sur les fichiers S, sur l'état d'urgence, sur l'organisation de la police, et ça risque de se développer encore dans les prochains jours, sur, évidemment, la construction de prisons. Il y a tous ces amalgames aussi permanents entre les terroristes et les musulmans, sous couvert de grandes questions comme la laïcité ou la nature de l'islam. Du Front National jusqu'à Hollande, tous se complaisent dans des postures autoritaires et répressive. Mais ce n'est pas cette course à l'échalote sécuritaire qui empêchera les vocations terroristes de naître ou qui diminuera la délinquance ou la criminalité. Notre société est malade, elle pourrit de l'intérieur. Que des jeunes de 15, 18, 20 ans rêvent de se faire exploser et de tuer le plus de monde possible pour aller plus vite au paradis est une des expressions de cette décadence. Il n'y a plus d'idéal, de projet collectif. C'est le culte de la réussite et de l'enrichissement personnel. On est censé s'extasier devant les milliardaires, alors que la misère s'étale partout sous nos yeux. La société capitaliste marginalise et exclut. Elle nous met en concurrence permanente et elle nous force à nous forger une carapace. Elle nous pousse au chacun pour soi, à l'isolement et à la haine de l'autre. C'est cette déshumanisation qui fait le lit de la délinquance et du fanatisme religieux. Alors il est facile de tenir des discours électoralistes et de promettre toujours plus de répression. Mais changer cette réalité-là, c'est autre chose. Mais tant que nous ne la remettrons pas en cause, la société ne fera que s'enfoncer dans plus de barbarie. Et je pense en particulier aux plus jeunes. Nombre d'entre eux ne s'intéressent pas à cette élection présidentielle. Mais il y a autre chose. Il y a cette organisation de la société. Et en plus d'avoir à subir le chômage et la précarité, tous ces stages non payés ou sous-payés, où la jeunesse constitue de la chair à patron, On leur dit maintenant qu'ils vont devoir faire avec la menace terroriste, avec le racisme, avec toute cette montée des idées réactionnaires. Eh bien, je ne peux pas croire que la jeunesse se résignera à vivre dans ce monde-là. Les jeunes ont toujours été l'aile marchande des révolutions et des révoltes. Alors, il nous faut aller voir les jeunes, leur transmettre cette conviction qu'il faut renverser l'ordre capitaliste et rejoindre le camp des travailleurs. Parce que c'est la seule force sociale qui est capable de construire une société de justice, de fraternité, enfin débarrassée des classes sociales et de l'exploitation. Du côté de ce que l'on appelle la gauche de la gauche, on est bien loin de ces perspectives, y compris au Parti communiste. Et dans cette campagne d'ailleurs, que propose le Parti communiste? De trouver un bon candidat de gauche. Alors que de plus en plus de travailleurs ont compris qu'ils avaient autant d'ennemis à gauche qu'à droite, la direction du Parti communiste leur propose de retomber dans le même piège et dans les mêmes illusions. Pierre Laurent, le secrétaire national du PC, voit même son candidat parmi Montebourg, Duflot, alors Duflot plus maintenant sans doute, Hamon. Mais ils ont tous été les exécutants de la politique de Hollande. Ils ont applaudi au pacte de responsabilité et à tous les cadeaux patronaux. Et ils se sont félicités des accords de compétitivité imposés aux travailleurs à coup de chantage patronal. Aujourd'hui, Montebourg dénonce le laisser-faire du gouvernement et le rend co-responsable de la fermeture programmée d'Alstom à Belfort. Mais qu'a-t-il fait lui-même pour empêcher celle de l'usine Peugeot-Citroën d'Aulnay? Il a gesticulé pour Florange, mais il a fini par se coucher devant Mittal, lui aussi, en laissant les travailleurs sur le carreau. Et c'est dans ce genre de politicien que les travailleurs devraient replacer leur confiance, et les militants du PC devraient leur servir de masse de manœuvre. Pierre Laurent est prêt à subordonner son parti sans même se donner la peine de fixer les conditions de son soutien. Il est prêt à soutenir un candidat de gauche sans même exiger quoi que ce soit de lui, quoi que ce soit pour les travailleurs, car les perspectives du PCF ne sont pas fondées sur les intérêts et les luttes du monde ouvrier. Elles sont fonction des alliances électoralistes censées préserver ses élus à l'Assemblée nationale, dans les régions, les départements ou les municipalités. Ce sont des calculs stériles, illusoires et démoralisants pour ses propres militants. Exactement comme il l'a fait avec Mitterrand, puis avec Jospin, le PCF veut recréer des illusions dans la gauche gouvernementale et faire et refaire une virginité à des politiciens qui pensent en bourgeois et qui sont attachés à l'ordre bourgeois. En remplaçant la lutte de classe par l'électoralisme, le PCF a désarmé les travailleurs. Il les a écœurés et désorientés au point que certains aujourd'hui regardent du côté de Le Pen. Alors, ce que j'ai à dire à ceux des militants et des sympathisants du PCF, pour qui l'étiquette communiste a encore une signification, et à tous ceux qui n'ont pas renoncé à agir auprès des travailleurs dans les entreprises et dans les quartiers, c'est retrouver confiance dans les travailleurs. Retrouver les idées qui ont été à la base de la fondation du PC. Le Parti communiste s'est créé au début des années 1920 pour rompre avec le Parti socialiste et sa politique d'union sacrée avec la bourgeoisie et son État. Il s'est créé pour lever le drapeau de la Révolution et pour affirmer la nécessité que les travailleurs renversent le pouvoir de la bourgeoisie et prennent eux-mêmes la société en main. Est-ce que la société capitaliste a changé depuis ? Ces idées et cette perspective sont-elles devenues illusoires ? Non. C'est l'électoralisme et le réformisme qui le sont et que l'on paye aujourd'hui. Alors, renouez avec les origines révolutionnaires de votre parti. Et ce n'est sûrement pas Jean-Luc Mélenchon qui fera progresser ces perspectives, qui sont les seuls à pouvoir faire avancer le combat des travailleurs. Jean-Luc Mélenchon, que le PCF a soutenu en 2012 et qu'il pourrait soutenir encore cette fois, est comme tous les autres. Il défend une politique pour la France, comme s'il pouvait y avoir une bonne politique, à la fois pour le grand patronat et pour les travailleurs, comme si leurs intérêts n'étaient pas contradictoires. Mélenchon est en guerre contre beaucoup de choses, contre les traités européens, contre la politique de l'Allemagne et ses retraités, contre les États-Unis, contre la Ve République, contre les médias aussi, souvent, mais pas contre le grand patronat, pas contre son pouvoir sur l'économie et pas contre le système d'exploitation qui est à la base de la condition ouvrière. Avec d'autres, y compris Le Pen ou Dupont-Aignan, Mélenchon se veut le champion du souverainisme et de l'indépendance de la France. En prétendant que l'Union européenne et ses traités sont responsables de tous les maux des travailleurs, il contribue, lui aussi, à détourner l'attention des travailleurs de ceux qui sont les vrais responsables du chômage et des bas salaires. Les patrons bien français n'ont pas besoin d'aucun diktat de Bruxelles pour démolir les droits des travailleurs ou pour tirer les salaires vers le bas. La loi travail, les licenciements d'Alstom, les 6 millions de chômeurs, ce n'est pas la faute de Bruxelles, mais ce sont des choix des capitalistes et des gouvernements bien de chez nous. Et puis opposer les pays les uns aux autres, eh bien c'est opposer les travailleurs les uns aux autres. Et c'est ainsi qu'on en vient à accuser, comme l'a fait Mélenchon, les travailleurs détachés venus de Pologne ou d'ailleurs de voler le pain des Français. Ce qu'il a d'ailleurs confirmé, en expliquant que s'il était élu, plus aucun travailleur détaché n'entrerait en France. Eh bien, nous, nous disons qu'aucun travailleur n'a jamais volé son pain. Son pain, il le gagne à la sueur de son front et de ses muscles. Et nous affirmons que le droit à un emploi est un droit pour tous, quelle que soit sa nationalité. Les vrais voleurs dans cette société, ce sont les exploiteurs. Et puis, à côté de ça, Mélenchon nous sert la bonne vieille soupe réformiste. Mais regardez Tsipras en Grèce. Tsipras est un Mélenchon qui a réussi, parce qu'il a été élu. Mais que fait-il de son pouvoir? Il a fini par s'aplatir face au diktat de la finance. Et aujourd'hui, eh bien, il lui sert de courroie de transmission pour imposer plus d'austérité en Grèce, encore. Eh bien, pour être du côté de la classe ouvrière, il faut être contre le grand capital. Il faut être résolu à s'appuyer sur la combativité des travailleurs pour inverser le rapport de force. Et pour avoir une chance de gagner, il faut être prêt à aller jusqu'au bout du combat, c'est-à-dire jusqu'à exproprier la bourgeoisie. Jean-Luc Mélenchon n'en a pas du tout l'objectif, c'est pourquoi il ne peut pas représenter le camp et l'avenir des travailleurs. Au lendemain de l'élection, qu'est-ce qui changera pour nous? Nous irons au travail, beaucoup d'entre nous iront pointer à Pôle emploi ou à l'agence d'intérim. Et on se retrouvera confrontés aux mêmes chefs, aux mêmes patrons, aux mêmes actionnaires invisibles mais tout puissants. On se retrouvera confrontés à son banquier, à son propriétaire qui n'admet aucun retard de paiement, même quand on a perdu son boulot. On se retrouvera confrontés au pouvoir de l'État, qui sait dérouler le tapis rouge pour les plus riches, mais qui est sans pitié pour les classes populaires. Rien de fondamental n'aura changé. Parce que ces élections ne changeront pas notre condition d'exploité, ni cet ordre social dominé par l'argent et la bourgeoisie. La nouveauté, c'est que le petit personnel politique aura changé. Les riches auront un nouveau président de la République à leur disposition. Cela, beaucoup de travailleurs le savent, parce que d'élection après élection, ils en font l'expérience. Ils savent qu'il ne faut pas prendre les promesses des politiciens pour argent comptant. Mais, faute de lutte sociale d'ampleur, toute la vie politique se résume à ces élections. Et chaque campagne électorale donne lieu à un spectacle où jour après jour, mois après mois, les politiciens relayés par les médias nous jouent la comédie du changement. Et c'est ainsi que repart la machine à fabriquer les illusions électoralistes. C'est ainsi que les électeurs sont dressés pour voter utile, essayer quelqu'un qui n'a jamais gouverné, ou encore voter pour le moins pire. Mais encore une fois, le mieux que nous pouvons faire dans cette élection en tant que travailleurs, c'est de nous exprimer. Beaucoup parleront avec mépris d'un vote de contestation, de protestation ou encore d'un vote d'expression. Eh bien, nous le revendiquons. Nous appelons les travailleurs à voter pour exprimer leurs intérêts matériels et politiques. Cela ne changera pas la société, cela n'inversera pas le rapport de force avec le patronat et le gouvernement, c'est vrai. Il n'y a que l'action collective des travailleurs qui peut le faire, qu'un mouvement social puissant, comme on en a connu en mai-juin 36 ou en 1968. Mais regardez la mobilisation contre la loi El Khomri. Elle n'a pas, elle non plus, réussi à inverser le rapport de force et à faire reculer le gouvernement. A-t-elle été pour autant inutile? Sûrement pas. En se montrant et en défendant leurs intérêts pendant 4 mois, les travailleurs conscients et combatifs ont contribué à élever la conscience du monde du travail en général. Regardez comment l'opinion ouvrière a résisté au tombereau d'insultes et de calomnies qui étaient déversées sur les manifestants. À entendre les médias, hein, souvenez-vous, les grévistes de la SNCF et des raffineries étaient des preneurs d'otages, des terroristes, les manifestants étaient des casseurs d'hôpital pour enfants. Un éditorialiste a même comparé la CGT à Daesh. Mais parce qu'une fraction des travailleurs ne lâchait pas le combat, et parce qu'elle continuait de dire ce qu'elle pensait, eh bien elle a gagné la guerre de l'opinion contre les médias. Alors oui, la loi El Khomri a été imposée de force, mais elle n'est pas passée dans les têtes des travailleurs. Et aujourd'hui, la légitimité est du côté de ceux qui continuent de dénoncer cette loi, et c'est un gage pour les luttes de demain. Alors oui, seuls ceux qui se battent pour leurs idées, pour leurs objectifs, pour leurs perspectives, peuvent influencer l'opinion et l'état d'esprit des travailleurs. C'est important, c'est même l'essentiel, parce que la résistance des travailleurs dépend de ce qu'ils ont dans la tête. Alors, dire qu'on n'est pas d'accord, exprimer nos intérêts contre nos ennemis, c'est la première chose à faire, c'est le premier acte de résistance. Et ne craignons pas d'être minoritaires. À quoi cela sert-il de voter avec la majorité quand cela conduit à élire un adversaire? Aujourd'hui, combien de travailleurs se mordent les doigts d'avoir voté pour Hollande en 2012? Et il faudrait recommencer avec un autre. Chercher à voter pour le moins pire est également un piège. La situation ne peut qu'empirer pour le monde ouvrier s'il ne se bat pas collectivement. Quant à s'abstenir, ce n'est pas une preuve de radicalisme ou de conscience. S'abstenir, c'est se résigner, c'est se taire. Encore une fois, si nous ne défendons pas nos idées, qui le fera? Personne ne mènera le combat à notre place. Alors on peut nous enlever beaucoup de choses. On peut nous enlever notre boulot, notre salaire, notre logement. Mais on ne peut pas nous enlever nos idées, nos convictions et notre dignité. Eh bien, il faut les exprimer. Et il n'y a pas de petits combats, il n'y a pas de petits gestes. Quand on est minoritaire, la moindre voix compte et peut porter. Alors il faut entraîner le maximum de ceux qui nous entourent à joindre leur voix à la nôtre. Nous sommes à contre-courant, mais quand le courant pousse dans une direction aussi réactionnaire, aussi infecte, voire barbare, quand le courant pousse à la soumission et à la résignation, eh bien oui, nous pouvons être fiers d'être à contre-courant. Je suis la candidate de lutte ouvrière, et les institutions sont ainsi faites qu'il fallait un nom, et mes camarades m'ont choisi. Je serai donc en première ligne et je me battrai comme je pourrai sur les plateaux de télé à chaque fois que l'on me donnera la parole. Mais ma campagne sera ignorée par les médias jusqu'aux 15 derniers jours, où ils seront un peu contraints de m'inviter. Alors, il ne faut pas compter sur les médias. Mais ce n'est pas non plus quelque chose de très nouveau. Le mouvement ouvrier est né avant la télévision et avec toute la grande presse contre lui. Et malgré cela, il s'est développé. Il s'est développé grâce aux militants qui faisaient circuler l'expérience ouvrière, les idées et les valeurs communistes. Eh bien, il faut faire la même chose. Pour que cette campagne soit réussie, il faut que ce soit notre campagne à tous, il faut que ce soit votre campagne. Il faut que ce soit une campagne militante. Il faut que vous multipliez les discussions avec vos camarades de travail, dans votre famille, auprès de vos amis, dans votre voisinage. Il faut essayer de les convaincre et de leur donner envie de s'exprimer en tant que travailleurs, en tant que salariés, en tant que chômeurs. Rien n'est à négliger. Toutes les discussions seront utiles. Cela dépend de la ténacité et de la force de conviction de chacun d'entre nous. Si nous sommes plusieurs milliers à entraîner 5, 10, 50 personnes à voter, et si ces personnes en entraînent elles-mêmes, une ou deux, nous aurons fait une bonne campagne. Cela nous donnera l'occasion de nous rassembler et d'associer des jeunes et des moins jeunes à cette campagne. Et cela nous donnera la possibilité de grandir, de renforcer les équipes militantes pour construire le parti qui est nécessaire au monde du travail. Aujourd'hui, du Front National au Parti Socialiste, la bourgeoisie a une variété de partis à sa disposition. Mais la classe ouvrière n'en a aucun qui exprime ses intérêts de classe. La constitution de parti a pourtant joué un rôle essentiel dans le développement du mouvement ouvrier. Les premiers partis socialistes au XIXe siècle, le Parti communiste dans les années 1920, ont permis à ceux qui refusaient le capitalisme de s'organiser et donc de décupler leurs forces. Ils ont permis qu'existe une autre opinion que celle des partis bourgeois. Ils ont permis que se diffusent les idées contre l'exploitation, contre le nationalisme et ses avatars racistes et colonialistes, contre les guerres aussi. Ils ont aussi permis que les travailleurs existent, non seulement dans la défense de leurs intérêts matériels, mais aussi politiquement, en tant que classe sociale postulant à la direction de la société. Alors oui, il nous faudrait un parti des travailleurs, un parti qui dissipe les illusions, démasque les faux amis, cible les vrais ennemis, un parti qui diffuse sur chaque question un point de vue communiste. Un tel parti ne se formera pas en un jour. Il faudra surtout des luttes massives et déterminées. Mais les élections peuvent contribuer à une petite échelle à ce que se regroupent ceux qui veulent combattre pour un autre monde. Alors il nous faut profiter de cette campagne au maximum pour avancer sur la voie d'un tel parti. L'Élysée, ni Arlette Laguiller, ni moi-même n'en avons jamais rêvé. Ni moi, ni aucun des camarades de lutte ouvrière n'aspirons à prendre quelque responsabilité que ce soit dans ce système qui est basé sur l'exploitation et sur l'oppression. Nous voulons le renverser, ce système. Mais je l'ai déjà dit, le pouvoir de l'État, nous voulons le conquérir. Nous voulons le conquérir avec la classe ouvrière. Nous sommes communistes révolutionnaires et nous avons la conviction que les travailleurs peuvent établir leur propre pouvoir étatique et s'en servir pour exproprier la bourgeoisie et créer un monde débarrassé de l'exploitation et capable de répondre aux besoins de tous. Ce n'est évidemment pas ce qui est en jeu dans cette élection. Mais cela signifie qu'il n'y aura pas de mauvaise surprise pour ceux qui voteront pour ma candidature. Ceux qui voteront pour faire entendre le camp des travailleurs savent qu'ils ne voteront pas, ne servira pas de tremplin à un arriviste. Leur vote ne sera pas déformé, il sera sans ambiguïté. Personne ne pourra se tromper sur le sens de ce vote. Nombre de gens et de catégories sociales sont suffisamment en colère pour chercher à exprimer un mécontentement. Et ils l'exprimeront de bien des façons différentes. Mais le mécontentement qui s'exprimera sur ma candidature aura un caractère ouvrier. Ce sera un vote de rejet de tous ces politiciens qui sont prêts à servir la soupe à la bourgeoisie. Ce sera un vote qui affirmera les droits, les intérêts et les perspectives du monde du travail. Ce sera un vote qui affirmera que quel que soit l'élu en 2017, nous savons que nous serons attaqués et nous ne nous laisserons pas faire. Ce sera un vote de dignité et de conscience ouvrière qui affirmera que la société peut se passer de la bourgeoisie, pas des travailleurs qui font tout tourner et produisent toutes les richesses.